Chapitre 14. Le défilé de la hache. Les Carthaginois n'étaient pas rentrés dans leur maison que les nuages s'amoncelèrent plus épais. Ceux qui levaient la tête vers le colosse sentirent sur leur front de grosses gouttes, et la pluie tomba. Elle tomba toute la nuit, abondamment, à flots. Le tonnerre grondait, c'était la voix de Moloch. Il avait vaincu Tanit, et maintenant fécondée, elle ouvrait du haut du ciel son vaste sein. Parfois on l'apercevait dans une éclaircie lumineuse, étendue sur des coussins de nuages. Puis les ténèbres se refermaient comme si, trop lasse encore, elle voulait se rendormir. Les Carthaginois, croyant tous que l'eau est enfantée par la lune, criaient pour faciliter son travail. La pluie battait les terrasses et débordait par-dessus, formait des lacs dans les cours, des cascades sur les escaliers, des tourbillons au coin des rues. Elle se versait en lourdes masses tièdes et en rayons pressés. Des angles de tous les édifices de gros jets écumeux sautaient. Contre les murs, il y avait comme des nappes blanchâtres, vaguement suspendues, et les toits des temples, lavés, brillaient en noir à la lueur des éclairs. Par mille chemins, des torrents descendaient de l'acropole, des maisons s'écroulaient tout à coup, et des poutrelles, des plâtras, des meubles passaient dans les ruisseaux qui couraient sur les dalles, impétueusement. On avait exposé des amphores, des buires, des toiles, mais les torches s'éteignaient. On prit des brandons au bûcher du bal, et les Carthaginois, pour boire, se tenaient, le cou renversé, la bouche ouverte. D'autres, au bord des flaques bourbeuses, y plongeaient leurs bras jusqu'à l'aisselle, et se gorgeaient d'eau si abondamment qu'ils la vomissaient comme des buffles. La fraîcheur peu à peu se répandait. Ils aspiraient l'air humide, en faisant jouer leurs membres, et dans le bonheur de cette ivresse, bientôt un immense espoir surgit. Toutes les misères furent oubliées, la patrie, encore une fois, renaissait. Ils éprouvaient comme le besoin de rejeter sur d'autres l'excès de la fureur qu'ils n'avaient pu employer contre eux-mêmes. Un tel sacrifice ne devait pas être inutile. Bien qu'ils n'eussent aucun remords, ils se trouvaient emportés par cette frénésie que donne la complicité des crimes irréparables. Les barbares avaient reçu l'orage dans leur tente mal close, et tout transi encore le lendemain, ils pataugeaient au milieu de la boue, en cherchant leurs munitions et leurs armes, gâtées, perdues. Hamilcar de lui-même alla trouver Hannon, et, suivant ses pleins pouvoirs, il lui confia le commandement. Le vieux suffète hésita quelques minutes entre sa rancune et son appétit de l'autorité. Il accepta cependant. Ensuite, Hamilcar fit sortir une galère armée d'une catapulte à chaque bout. Il la plaça dans le golfe en face du radeau, puis il embarqua sur les vaisseaux disponibles ses troupes les plus robustes. Il s'enfuyait donc, et cinglant vers le nord, il disparut dans la brume. Mais 3 jours après, on allait recommencer l'attaque, des gens de la côte libyque arrivèrent tumultueusement. Barca était entré chez eux, il avait partout levé des vivres et il s'étendait dans le pays. Alors les barbares furent indignés comme s'ils les trahissaient. Ceux qui s'ennuyaient le plus du siège, les Gaulois surtout, n'hésitèrent pas à quitter les murs pour tâcher de le rejoindre. Spendius voulait reconstruire l'Hélépole, Mato s'était tracé une ligne idéale depuis sa tente jusqu'à Mégara, il s'était juré de la suivre, et aucun de leurs hommes ne bougea. Mais les autres, commandés par Autharite, s'en allèrent, abandonnant la portion occidentale du rempart. L'incurie était si profonde que l'on ne songea même pas à les remplacer. Nar-Havas les épiait de loin, dans les montagnes. Il fit pendant la nuit passer tout son monde sur le côté extérieur de la lagune, par le bord de la mer, et il entra dans Carthage. Il s'y présenta comme un sauveur, avec 6 000 hommes, tous portant de la farine sous leur manteau, et 40 éléphants chargés de fourrage et de viande sèche. On s'empressa vite autour d'eux, on leur donna des noms. L'arrivée d'un pareil secours réjouissait encore moins les Carthaginois que le spectacle même de ces forts animaux consacrés au bal. C'était un gage de sa tendresse, une preuve qu'il allait enfin, pour les défendre, se mêler de la guerre. Nar-Havas reçut les compliments des anciens, puis il monta vers le palais de Salambo. Il ne l'avait pas revu depuis cette fois où, dans la tente d'Hamilcar, entre les 5 armées, il avait senti sa petite main froide et douce attachée contre la sienne. Après les fiançailles, elle était partie pour Carthage. Son amour, détourné par d'autres ambitions, lui était revenu, et maintenant, il comptait jouir de ses droits, l'épouser, la prendre. Salammbô ne comprenait pas comment ce jeune homme pourrait jamais devenir son maître. Bien qu'elle demandât tous les jours à Tanit la mort de Mato, son horreur pour le Libyen diminuait. Elle sentait confusément que la haine dont il l'avait persécutée était une chose presque religieuse, et elle aurait voulu voir dans la personne de Nar Havas comme un reflet de cette violence qui la tenait encore éblouie. Elle souhaitait le connaître davantage, et cependant sa présence l'eût embarrassée. Elle lui fit répondre qu'elle ne devait pas le recevoir. D'ailleurs, Hamilcar avait défendu à ses gens d'admettre chez elle le roi des Numides. En reculant jusqu'à la fin de la guerre cette récompense, il espérait l'entretenir son dévouement. Et Nar Havas, par crainte du suffète, se retira. Mais il se montra hautain envers les sangs. Il changea leurs dispositions. Il exigea des prérogatives pour ses hommes et les établit dans les postes importants. Aussi les barbares ouvrirent tous de grands yeux en apercevant les Numides sur les tours. La surprise des Carthaginois fut encore plus forte lorsqu'arrivèrent, sur une vieille trirème punique, 400 des leurs faits prisonniers pendant la guerre de Sicile. En effet, Hamilcar avait secrètement renvoyé aux Kyrites les équipages des vaisseaux latins pris avant la défection des villes tyriennes, et Rome, par échange de bons procédés, lui rendait maintenant ses captifs. Elle dédaigna les ouvertures des mercenaires dans la Sardaigne, et même elle ne voulut point reconnaître comme sujet les habitants d'Utique. Hiéron, qui gouvernait à Syracuse, fut entraîné par cet exemple. Il lui fallait, pour conserver ses états, un équilibre entre les deux peuples. Il avait donc intérêt au salut des Cananéens, et il se déclara leur ami en leur envoyant 1200 bœufs avec 53 000 nébels de pur froment. Une raison plus profonde faisait secourir Carthage. On sentait bien que si les mercenaires triomphaient, depuis le soldat jusqu'au laveur d'écuelle, tout s'insurgerait, et qu'aucun gouvernement, aucune maison ne pourrait y résister. Hamilcar, pendant ce temps-là, battait les campagnes orientales. Il refoula les Gaulois et tous les barbares se retrouvèrent eux-mêmes comme assiégés. Alors il se mit à les harceler. Il arrivait, s'éloignait, et, renouvelant toujours cette manœuvre, peu à peu, il les détacha de leur campement. Spendius fut obligé de les suivre. Mato, à la fin, céda comme lui. Il ne dépassa point Tunis. Il s'enferma dans ses murs. Cette obstination était pleine de sagesse, car bientôt on aperçut Nar Havas qui sortait par la porte de Khamon avec ses éléphants et ses soldats. Hamilcar le rappelait. Mais déjà les autres barbares erraient dans les provinces à la poursuite du suffète. Il avait reçu à Clypea 3 000 Gaulois. Il fit venir des chevaux de la Cyrénaïque, des armures du Brutium, et il recommença la guerre. Jamais son génie ne fut aussi impérieux et fertile. Pendant 5 lunes, il les traîna derrière lui. Il avait un but où il voulait les conduire. Les barbares avaient tenté d'abord de l'envelopper par de petits détachements. Il leur échappait, toujours. Ils ne se quittèrent plus. Leur armée était de 40 000 hommes environ, et plusieurs fois ils eurent la jouissance de voir les Carthaginois reculer. Ce qui les tourmentait, c'était les cavaliers de Nar Havas. Souvent, aux heures les plus lourdes, quand on avançait par les plaines en sommeillant sous le poids des armes, tout à coup une grosse ligne de poussière montait à l'horizon. Des galops accouraient, et du sein d'un nuage plein de prunelles flamboyantes, une pluie de dards se précipitait. Les Numides, couverts de manteaux blancs, poussaient de grands cris, levaient les bras en serrant des genoux leurs étalons cabrés, les faisaient tourner brusquement, puis disparaissaient. Ils avaient toujours à quelque distance, sur les dromadaires, des provisions de javelots, et ils revenaient plus terribles, hurlaient comme des loups, s'enfuyaient comme des vautours. Ceux des barbares placés au bord des files tombaient un à un, et l'on continuait ainsi jusqu'au soir où l'on tâchait d'entrer dans les montagnes. Bien qu'elles fussent périlleuses pour les éléphants, Hamilcar s'y engagea. Il suivit la longue chaîne qui s'étend depuis le promontoire Hermaeum jusqu'au sommet du Zagouan. C'était, croyait-il, un moyen de cacher l'insuffisance de ses troupes. Mais l'incertitude continuelle où il les maintenait finissait par les exaspérer plus qu'aucune défaite. Il ne se décourageait pas et marchait derrière lui. Enfin, un soir, entre la montagne d'argent et la montagne de plomb, au milieu de grosses roches, à l'entrée d'un défilé, ils surprirent un corps de Vélite. et l'armée entière était certainement devant cela, car on entendait un bruit de pas avec des clairons. Aussitôt, les Carthaginois s'enfuirent par la gorge. Elle dévalait dans une plaine ayant la forme d'un fer de hache et environnée de hautes falaises. Pour atteindre les Vélites, les barbares s'y élancèrent. Tout au fond, parmi des bœufs qui galopaient, d'autres Carthaginois couraient tumultueusement. On aperçut un homme en manteau rouge. C'était le suffète. On se le criait. Un redoublement de fureur et de joie les emporta. Plusieurs, soit paresse ou prudence, étaient restés au seuil du défilé. Mais de la cavalerie, débouchant d'un bois à coups de pique et de sabre, les rabattit sur les autres et bientôt tous les barbares furent en bas, dans la plaine. Puis, cette grande masse d'hommes ayant oscillé quelque temps, s'arrêta. Ils ne découvraient aucune issue. Ceux qui étaient le plus près du défilé revinrent en arrière, mais le passage avait entièrement disparu. On héla ceux de l'avant pour les faire continuer. Ils s'écrasaient contre la montagne, et de loin, ils invectivèrent leurs compagnons qui ne savaient pas retrouver la route. En effet, à peine les barbares étaient-ils descendus, que des hommes, tapis derrière les roches, en les soulevant avec des poutres, les avaient renversés, et comme la pente était rapide, ces blocs énormes, roulant pêle-mêle, avaient bouché les trois orifices, complètement. À l'autre extrémité de la plaine s'étendait un long couloir, çà et là fendu par des crevasses, et qui conduisait à un ravin montant vers le plateau supérieur où se tenait l'armée punique. Dans ce couloir, contre la paroi de la falaise, on avait d'avance disposé des échelles, et, protégés par les détours des crevasses, les Vélites, avant d'être rejoints, purent les saisir et remonter. Plusieurs même s'engagèrent jusqu'au bas de la ravine. On les tira avec des câbles, car le terrain en cet endroit était un sable mouvant et d'une telle inclinaison que même sur les genoux, il eût été impossible de le gravir. Les barbares presque immédiatement y arrivèrent, mais une herse, haute de 40 coudées, et faite à la mesure exacte de l'intervalle, s'abaissa devant eux, tout à coup, comme un rempart qui serait tombé du ciel. Donc les combinaisons du suffète avaient réussi. Aucun des mercenaires ne connaissait la montagne, et, marchant à la tête des colonnes, ils avaient entraîné les autres. Les roches, un peu étroites par la base, s'étaient facilement abattues, et, tandis que tous couraient, son armée dans l'horizon avait crié comme en détresse. Hamilcar, il est vrai, pouvait perdre ses Vélites, la moitié seulement y resta. Il en eût sacrifié 20 fois davantage pour le succès d'une pareille entreprise. Jusqu'au matin, les barbares se poussèrent en file compacte d'un bout à l'autre de la plaine. Ils tâtaient la montagne avec leurs mains, cherchant à découvrir un passage. Enfin, le jour se leva. Ils aperçurent partout autour d'eux une grande muraille blanche taillée à pic. Et pas un moyen de salut, pas un espoir. Les deux sorties naturelles de cette impasse étaient fermées par la herse et par l'amoncellement des roches. Alors, tous se regardèrent sans parler. Ils s'affaissèrent sur eux-mêmes, en se sentant un froid de glace dans les reins et aux paupières une pesanteur accablante. Ils se relevèrent et bondirent contre les roches, mais les plus basses, pressées par le poids des autres, étaient inébranlables. Ils tâchèrent de s'y cramponner pour atteindre le sommet. La forme ventrue de ces grosses masses repoussait toute prise. Ils voulurent fendre le terrain des deux côtés de la gorge. Leurs instruments se brisèrent. Avec les mâts des tentes, ils firent un grand feu. Le feu ne pouvait pas brûler la montagne. Ils revinrent sur la herse. Elle était garnie de longs clous, épais comme des pieux, aigus comme les dards d'un porc-épic, et plus serrés que les crins d'une brosse. Mais tant de rage les animait qu'ils se précipitèrent contre elle. Les premiers y entrèrent jusqu'à l'échine. Les seconds refluèrent par-dessus, et tout retomba, en laissant à ces horribles branches des lambeaux humains et des chevelures ensanglantées. Quand le découragement se fut un peu calmé, on examina ce qu'il y avait de vivre. Les mercenaires, dont les bagages étaient perdus, en possédaient à peine pour 2 jours, et tous les autres s'en trouvaient dénués, car ils attendaient un convoi promis par les villages du sud. Cependant, des taureaux vagabondaient, ceux que les Carthaginois avaient lâchés dans la gorge afin d'attirer les barbares. Ils les tuèrent à coups de lance, on les mangea, et les estomacs étant remplis, les pensées furent moins lugubres. Le lendemain, ils égorgèrent tous les mulets, 40 environ, puis on racla leur peau, on fit bouillir leurs entrailles, on pila les ossements, et il ne désespérait pas encore. L'armée de Tunis, prévenue sans doute, allait venir. Mais le soir du cinquième jour, la faim redoubla. Ils rongèrent les baudriers des glaives et les petites éponges bordant le fond des casques. Ces 40 000 hommes étaient assis dans l'espèce d'hippodrome que formait autour d'eux la montagne. Quelques-uns restaient devant la herse ou à la base des roches, les autres couvraient la plaine confusément. Les forts s'évitaient, et les timides recherchaient les braves qui ne pouvaient pourtant les sauver. On avait, à cause de leur infection, enterré vivement les cadavres des vélites. La place des fosses ne s'apercevait plus. Tous les barbares languissaient, couchés par terre. Entre leurs lignes, çà et là, un vétéran passait, et ils hurlaient des malédictions contre les Carthaginois, contre Hamilcar et contre Mâtho, bien qu'il fût innocent de leur désastre, mais il leur semblait que leurs douleurs eussent été moindres s'ils les avaient partagées. Puis ils gémissaient, quelques-uns pleuraient tout bas, comme de petits enfants. Ils venaient vers les capitaines, et ils les suppliaient de leur accorder quelque chose qui apaisât leur souffrance. Les autres ne répondaient rien, ou, saisis de fureur, ils ramassaient une pierre et la leur jetaient au visage. Plusieurs, en effet, conservaient soigneusement, dans un trou en terre, une réserve de nourriture, quelques poignées de dattes, un peu de farine, et on mangeait cela pendant la nuit, en baissant la tête, sous son manteau. Ceux qui avaient des épées les gardaient nues dans leurs mains. Les plus défiants se tenaient debout, adossés contre la montagne. Ils accusaient leurs chefs et les menaçaient. Autharite ne craignait pas de se montrer. Avec cette obstination de barbare que rien ne rebute, 20 fois par jour il s'avançait jusqu'au fond, vers les roches, espérant chaque fois les trouver peut-être déplacées, et, balançant ses lourdes épaules couvertes de fourrure, il rappelait à ses compagnons un ours qui sort de sa caverne au printemps pour voir si les neiges sont fondues. Spendius, entouré de Grecs, se cachait dans une des crevasses. Comme il avait peur, il fit répandre le bruit de sa mort. Ils étaient maintenant d'une maigreur hideuse. Leur peau se plaquait de marbrure bleuâtre. Le soir du 9e jour, 3 Ibériens moururent. Leurs compagnons effrayés quittèrent la place. On les dépouilla, et ses corps nus et blancs restèrent sur le sable, au soleil. Alors des garamantes se mirent lentement à rôder tout autour. C'étaient des hommes accoutumés à l'existence des solitudes et qui ne respectaient aucun dieu. Enfin, le plus vieux de la troupe fit un signe, et se baissant vers les cadavres, avec leurs couteaux, ils en prirent des lanières, puis, accroupis sur les talons, ils mangeaient. Les autres regardaient de loin. On poussa des cris d'horreur. Beaucoup, cependant, au fond de l'âme, jalousaient leur courage. Au milieu de la nuit, quelques-uns de ceux-là se rapprochèrent, et, dissimulant leur désir, ils en demandaient une mince bouchée, seulement pour essayer, disaient-ils. De plus hardis survinrent. Leur nombre augmenta. Ce fut bientôt une foule. Mais presque tous, en sentant cette chair froide au bord des lèvres, laissaient leurs mains retomber. D'autres, au contraire, la dévoraient avec délices. Afin d'être entraînés par l'exemple, ils s'excitaient mutuellement. Tel qui avait d'abord refusé allait voir les garamantes et ne revenait plus. Ils faisaient cuire les morceaux sur des charbons à la pointe d'une épée, on les salait avec de la poussière et l'on se disputait les meilleurs. Quand il ne resta plus rien des 3 cadavres, les yeux se portèrent sur toute la plaine pour en trouver d'autres. Mais ne possédait-on pas des Carthaginois? 20 captifs faits dans la dernière rencontre et que personne jusqu'à présent n'avait remarqué. Ils disparurent, c'était une vengeance d'ailleurs. Puis, comme il fallait vivre, comme le goût de cette nourriture s'était développé, comme on se mourait, on égorgea les porteurs d'eau, les palefreniers, tous les valets des mercenaires. Chaque jour on en tuait, quelques-uns mangeaient beaucoup, reprenaient des forces et n'étaient plus tristes. Bientôt cette ressource vint à manquer. Alors l'envie se tourna sur les blessés et les malades, puisqu'ils ne pouvaient se guérir, autant les délivrer de leur torture, et sitôt qu'un homme chancelait, tous s'écriaient qu'il était maintenant perdu et devait servir aux autres. Pour accélérer leur mort, on employait des ruses, on leur volait le dernier reste de leur immonde portion, comme par mégarde, on marchait sur eux. Les agonisants, pour faire croire à leur vigueur, tâchaient d'étendre les bras, de se relever, de rire. Des gens évanouis se réveillaient au contact d'une lame ébréchée qui leur sciait un membre, et ils tuaient encore par férocité, sans besoin, pour assouvir leur fureur. Un brouillard lourd et tiède, comme il en arrive dans ces régions à la fin de l'hiver, le 14e jour, s'abattit sur l'armée. Ce changement de la température amena des morts nombreuses, et la corruption se développait effroyablement vite dans la chaude humidité retenue par les parois de la montagne. La bruine qui tombait sur les cadavres, en les amollissant, fit bientôt de toute la plaine une large pourriture. Des vapeurs blanchâtres flottaient au-dessus, elles piquaient les narines, pénétraient la peau, troublaient les yeux, et les barbares croyaient entrevoir les souffles exhalés, les âmes de leurs compagnons. Un dégoût immense les accabla. Ils n'en voulaient plus. Ils aimaient mieux mourir. 2 jours après, le temps redevint pur et la faim les reprit. Il leur semblait parfois qu'on leur arrachait l'estomac avec des tenailles. Alors ils se roulaient, saisis de convulsions, jetaient dans leur bouche des poignées de terre, se mordaient les bras et éclataient en rires frénétiques. La soif les tourmentait encore plus, car ils n'avaient pas une goutte d'eau, les outres, depuis le 9e jour, étant complètement taries. Pour tromper le besoin, ils s'appliquaient sur la langue les écailles métalliques des ceinturons, les pommeaux en ivoire, les fers des glaives. D'anciens conducteurs de caravanes se comprimaient le ventre avec des cordes. D'autres suçaient un caillou. On buvait de l'urine refroidie dans les casques d'airain. Et ils attendaient toujours l'armée de Tunis. La longueur du temps qu'elle mettait à venir, d'après leurs conjectures, certifiait son arrivée prochaine. D'ailleurs, Mato, qui était un brave, ne les abandonnerait pas. « Ce sera pour demain, » se disait-il. Et demain se passait. Au commencement, ils avaient fait des prières, des vœux, pratiqué toutes sortes d'incantations. À présent, ils ne sentaient pour leur divinité que de la haine et, par vengeance, tâchaient de ne plus y croire. Les hommes de caractère violent périrent les premiers. Les Africains résistèrent mieux que les Gaulois. Zarxas, entre les Baléares, restait étendu tout de son long, les cheveux par-dessus le bras, inerte. Spendius trouva une plante à larges feuilles emplie d'un suc abondant, et l'ayant déclarée vénéneuse, afin d'en écarter les autres, il s'en nourrissait. On était trop faible pour abattre d'un coup de pierre les corbeaux qui volaient. Quelquefois, lorsqu'un gypaète posé sur un cadavre le déchiquetait depuis longtemps déjà, un homme se mettait à ramper vers lui avec un javelot entre les dents. Il s'appuyait d'une main, et après avoir bien visé, il lançait son arme. La bête aux plumes blanches, troublée par le bruit, s'interrompait, regardait tout alentour d'un air tranquille, comme un cormoran sur un écueil, puis elle replongeait son hideux bec jaune, et l'homme désespéré retombait à plat ventre, dans la poussière. Quelques-uns parvenaient à découvrir des caméléons, des serpents, mais ce qui les faisait vivre, c'était l'amour de la vie. Ils tendaient leur âme sur cette idée, exclusivement, et se rattachaient à l'existence par un effort de volonté qui la prolongeait. Les plus stoïques se tenaient les uns près des autres, assis en rond, au milieu de la plaine, çà et là, entre les morts, et, enveloppés dans leurs manteaux, ils s'abandonnaient silencieusement à leur tristesse. Ceux qui étaient nés dans les villes se rappelaient des rues toutes retentissantes, des tavernes, des théâtres, des bains, et les boutiques des barbiers où l'on écoute des histoires. D'autres revoyaient des campagnes au coucher du soleil, quand les blés jaunes ondulent et que les grands bœufs remontent les collines avec le soc des charrues sur le cou. Les voyageurs rêvaient à des citernes, les chasseurs à leurs forêts, les vétérans à des batailles, et dans la somnolence qui les engourdissait, leurs pensées se heurtaient avec l'emportement et la netteté des songes. Des hallucinations les envahissaient tout à coup. Ils cherchaient dans la montagne une porte pour s'enfuir et voulaient passer au travers. D'autres, croyant naviguer par une tempête, commandaient la manœuvre d'un navire, ou bien ils se reculaient épouvantés, apercevant dans les nuages des bataillons puniques. Il y en avait qui se figuraient être à un festin, et ils chantaient. Beaucoup, par une étrange manie, répétaient le même mot ou faisaient continuellement le même geste. Puis, quand ils venaient à relever la tête et à se regarder, des sanglots les étouffaient en découvrant l'horrible ravage de leur figure. Quelques-uns ne souffraient plus, et pour employer les heures, ils se racontaient les périls auxquels ils avaient échappé. Leur mort à tous était certaine, imminente. Combien de fois n'avaient-ils pas tenté de s'ouvrir un passage? Quant à implorer les conditions du vainqueur, Par quel moyen? Il ne savait même pas où se trouvait Hamilcar. Le vent soufflait du côté de la ravine. Il faisait couler le sable par-dessus la herse, en cascade, perpétuellement. Et les manteaux et les chevelures des barbares s'en recouvraient comme si la terre, montant sur eux, avait voulu les ensevelir. Rien ne bougeait. L'éternelle montagne, chaque matin, leur semblait encore plus haute. Quelquefois des bandes d'oiseaux passaient à tire-d'aile, en plein ciel bleu, dans la liberté de l'air. Il fermait les yeux pour ne pas les voir. On sentait d'abord un bourdonnement dans les oreilles. Les ongles noircissaient, le froid gagnait la poitrine. On se couchait sur le côté et l'on s'éteignait sans un cri. Le 19e jour, 2000 Asiatiques étaient morts. 1500 de l'archipel, 8000 de la Libye, les plus jeunes des mercenaires et des tribus complètes, en tout 20 000 soldats, la moitié de l'armée. Autharite, qui n'avait plus que 50 Gaulois, allait se faire tuer pour en finir, quand au sommet de la montagne en face de lui, il crut voir un homme. Cet homme, à cause de l'élévation, ne paraissait pas plus grand qu'un nain. Cependant, Autharite reconnut à son bras gauche un bouclier en forme de trèfle. Il s'écria « Un Carthaginois !» Et dans la plaine, devant la herse et sous les roches, immédiatement tous se levèrent. Le soldat se promenait au bord du précipice. D'en bas, les barbares le regardaient. Spendius ramassa une tête de bœuf, puis avec deux ceintures ayant composé un diadème, il le planta sur les cornes au bout d'une perche en témoignage d'intention pacifique. Le Carthaginois disparut. Ils attendirent. Enfin, le soir, comme une pierre se détachant de la falaise, tout à coup il tomba d'en haut un baudrier. Fait de cuir rouge et couvert de broderies avec 3 étoiles de diamants, il portait en print à son milieu la marque du Grand Conseil, un cheval sous un palmier. C'était la réponse d'Hamilcar, le sauf-conduit qu'il envoyait. Ils n'avaient rien à craindre, tout changement de fortune amenait la fin de leurs maux. Une joie démesurée les agita, ils s'embrassaient, pleuraient. Spendius, Autharite et Zarxas, 4 Italiotes, un nègre et 2 Spartiates, s'offrirent comme parlementaires. On les accepta tout de suite. Ils ne savaient cependant par quel moyen s'en aller. Mais un craquement retentit, dans la direction des roches, et la plus élevée, ayant oscillé sur elle-même, rebondit jusqu'en bas. En effet, si du côté des barbares elles étaient inébranlables, car il aurait fallu leur faire remonter un pan oblique, et d'ailleurs elles se trouvaient tassées par l'étroitesse de la gorge, de l'autre, au contraire, il suffisait de les heurter fortement pour qu'elles descendissent. Les Carthaginois les poussèrent, et, au jour levant, elles s'avançaient dans la plaine comme les gradins d'un immense escalier en ruine. Les barbares ne pouvaient encore les gravir. On leur tendit des échelles, tous s'y élancèrent. La décharge d'une catapulte les refoula. Les 10 seulement furent emmenés. Ils marchaient entre les clinabares et appuyaient leurs mains sur la croupe des chevaux pour se soutenir. Maintenant que leur première joie était passée, ils commençaient à concevoir des inquiétudes. Les exigences d'Hamilcar seraient cruelles, mais Spendius les rassurait. « C'est moi qui parlerai. » Et il se vantait de connaître les choses bonnes à dire pour le salut de l'armée. Derrière tous les buissons, ils rencontraient des sentinelles en embuscade. Elles se prosternaient devant le baudrier que Spendius avait mis sur son épaule. Quand ils arrivèrent dans le camp punique, la foule s'empressa autour d'eux, et ils entendaient comme des chuchotements, des rires. La porte d'une tente s'ouvrit. Hamilcar était tout au fond, assis sur un escabeau, près d'une table basse où brillait un glaive nu. Des capitaines, debout, l'entouraient. En apercevant ces hommes, il fit un geste en arrière, puis il se pencha pour les examiner. Ils avaient les pupilles extraordinairement dilatées, avec un grand cercle noir autour des yeux qui se prolongeait jusqu'au bas de leurs oreilles. Leur nez bleuâtre saillissait entre leurs joues creuses, fendillées par des rides profondes. La peau de leur corps, trop large pour leurs muscles, disparaissait sous une poussière de couleur ardoise. Leurs lèvres se collaient contre leurs dents jaunes. Ils exhalaient une infecte odeur. On aurait dit des tombeaux entr'ouverts, des sépulcres vivants. Au milieu de la tente, il y avait sur une natte où les capitaines allaient s'asseoir un plat de courge qui fumait. Les barbares y attachaient leurs yeux, en grelottant de tous les membres, et des larmes venaient à leurs paupières. Ils se contenaient, cependant. Hamilcar se détourna pour parler à quelqu'un. Alors ils se ruèrent dessus, tous, à plat ventre. leurs visages trempaient dans la graisse, et le bruit de leur déglutition se mêlait aux sanglots de joie qu'ils poussaient. Plutôt par étonnement que par pitié, sans doute, on les laissa finir la gamelle. Puis, quand ils se furent relevés, Hamilcar commanda d'un signe à l'homme qui portait le baudrier de parler. Spendius avait peur. Il balbutiait. Hamilcar, en l'écoutant, faisait tourner autour de son doigt une grosse bague d'or, celle qui avait empreint sur le baudrier le sceau de Carthage. Il la laissa tomber par terre. Spendius tout de suite la ramassa. Devant son maître, ses habitudes d'esclave le reprenaient. Les autres frémirent, indignés de cette bassesse. Mais le grec haussa la voix, et rapportant les crimes d'Annon, qu'il savait être l'ennemi de Barca, tâchant de l'apitoyer avec le détail de leur misère et les souvenirs de leur dévouement, il parla pendant longtemps, d'une façon rapide, insidieuse, violente même. À la fin, il s'oubliait, entraîné par la chaleur de son esprit. Hamilcar répliqua qu'il acceptait leurs excuses. Donc la paix allait se conclure, et maintenant elle serait définitive. Mais il exigeait qu'on lui livrât 10 des mercenaires, à son choix, sans armes et sans tunique. Il ne s'attendait pas à cette clémence. Spendius s'écria. « Oh, 20 si tu veux, maître !»« Non, 10 me suffisent, » répondit doucement Hamilcar. On les fit sortir de la tente afin qu'ils pussent délibérer. Dès qu'ils furent seuls, Autharite réclama pour les compagnons sacrifiés, et Zarxas dit à Spendius. « Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Son glaive était là, près de toi. »« Lui ?» fit Spendius, et il répéta plusieurs fois. « Lui ? Lui ?» Comme si la chose eût été impossible, et Hamilcar quelqu'un d'immortel. Tant de lassitude les accablait qu'ils s'étendirent par terre sur le dos, ne sachant à quoi se résoudre. Spendius les engageait à céder. Enfin, ils y consentirent, et ils rentrèrent. Alors le suffète mit sa main dans les mains des 10 barbares tour à tour, en serrant leurs pouces, puis il la frotta sur son vêtement, car leur peau visqueuse causait au toucher une impression rude et molle, un fourmillement gras qui horripilait. Ensuite il leur dit « Vous êtes bien tous les chefs des barbares et vous avez juré pour eux. »« Oui, » répondirent-ils, « sans contrainte, du fond de l'âme, avec l'intention d'accomplir vos promesses. » Ils assurèrent qu'ils s'en retournaient vers les autres pour les exécuter. « Eh bien, » reprit le suffète, « d'après la convention passée entre moi, Barca, et les ambassadeurs des mercenaires, c'est vous que je choisis, et je vous garde. » Spendius tomba évanoui sur la natte. Les barbares, comme l'abandonnant, se resserrèrent les uns près des autres, et il n'y eut pas un mot, pas une plainte. Leurs compagnons qui les attendaient, ne les voyant pas revenir, se crurent trahis. Sans doute, les parlementaires s'étaient donnés au suffète. Ils attendirent encore 2 jours, puis le matin du 3e, leur résolution fut prise. Avec des cordes, des pics et des flèches disposées comme des échelons entre les lambeaux de toile, ils parvinrent à escalader les roches, et laissant derrière eux les plus faibles, 3000 environ, ils se mirent en marche pour rejoindre l'armée de Tunis.